Place Info. L'infomédia avec vous, Céline Baïdarcourt. L'actu pour commencer, c'est d'abord France Inter qui prend la défense de Léa Salamé.
Oui, la directrice de la rédaction, Catherine Nel, rejette les accusations de complaisance adressées à sa journaliste lors de l'interview de Carlos Ghosn. Elle estime aussi que le service public fait son travail en interrogeant un fugitif. De nombreux internautes se sont montrés scandalisés en regardant un extrait de cet entretien dans lequel Léa Salamé apparaît tout sourire, presque fascinée par l'évasion de l'ancien patron de Renault-Nissan. Par exemple, l'humoriste Guillaume Meurice, qui officie sur France Inter, demande si on peut faire ça avec d'autres taulards en cavale ou s'il faut absolument qu'il soit milliardaire.
Allez, on passe à cette vente record dans l'émission Affaires conclues sur France 2.
Une statue en bronze doré adjugée 16 500 euros. C'est du jamais vu dans ce programme.
Ouais,
où des antiquaires font monter les enchères pour décrocher des objets apportés par des anonymes. C'est présenté par Sophie Davant. La sculpture en question était signée Tomir, grand artiste de l'époque empire que vous avez chez vous, bien sûr, Victor.
Bien évidemment. Notre invité aujourd'hui, l'auteur d'un documentaire à voir dimanche soir sur France 5, 9 femmes aux marches du palais, l'histoire des premières dames sous la 5e République.
Bonjour Elisabeth Capniste.
Bonjour.
Vous retracez 60 ans d'histoire de France par le prisme des épouses des présidents. Certaines ont aimé ce rôle de première dame, d'autres l'ont subi. La première d'entre elles, Yvonne de Gaulle, femme soumise et discrète en apparence. Mais l'était-elle vraiment ?
Alors elle n'était pas aussi soumise que l'image qu'elle a bien voulu laisser d'elle. Et c'est une femme qui avait un vrai caractère et qui ne se laissait pas faire ni par son mari, ni par le reste du monde. C'est-à-dire, elle était indépendante.
Mmh. Elle a construit une vie à côté, en fait.
Elle a construit une vie à côté. Et puis surtout, ce qu'elle a fait d'assez remarquable, c'est son soutien à ce fameux projet de loi de Lucien Neuwirth, la loi pour la pilule contraceptive. Et pour une femme catholique, c'était assez étonnant. Et elle l'a fait.
Mmh. Alors, elle n'aimait pas cette vie à l'Élysée. Tout comme Claude Pompidou, d'ailleurs, qui a dit que l'Élysée était pour elle la maison du malheur. Et puis, on va écouter Anémone Giscard d'Estaing. Vous l'avez demandé ce qu'elle retenait de son septennat de première dame.
Ces 7 ans ont été une période très intense. Heureuse, je n'en suis pas tellement sûre.
Pourquoi, à votre avis, ces femmes ont finalement détesté leur période à l'Élysée ?
Parce que tout d'un coup, ces femmes étaient sous la lumière crue des médias. C'est-à-dire qu'on décortiquait leur manière de s'habiller. Il y avait quand même un protocole assez rigide. Donc tout d'un coup, cette vie-là, elles ne l'avaient pas choisie. Elles ont suivi leur mari. Mais au fond, c'était pas véritablement quelque chose qu'elles souhaitaient vivre.
Mmh. Laquelle a eu une véritable influence politique sur son mari ?
Je pense Daniel Mitterrand a eu une influence politique.
Il n'était pas d'accord, hein, souvent.
Ils n'étaient pas d'accord, mais il y avait comme ça, comme une sorte de contrat entre eux. Elle était sa conscience de gauche. Elle était très impliquée, très combative. Il y a surtout elle, parce que les autres, il me semble pas une femme comme Bernadette Chirac, qui a été une femme politique. Je suis pas sûre qu'elle ait eu beaucoup d'influence sur son mari.
Je voudrais qu'on revienne à Daniel Mitterrand, qui, dès l'accession de son mari François à l'Élysée, dit « Je serai pas une potiche ».
Oui, elle dit « je ne serai pas une potiche » et elle ne l'a pas été. Elle s'est servie de ce rôle, précisément pour ses combats, la lutte pour le peuple kurde, le peuple tibétain et même pour les droits des Français. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment utilisé cette fonction. Elle n'a pas vécu non plus à l'Élysée, très peu ont vécu à l'Élysée. Mais dormir, je veux dire.
Tout ont créé une fondation ou soutenu une cause, ça c'est leur point commun ?
Oui, je dirais que c'est leur point commun. À partir du moment où elles avaient quand même un rôle à jouer, au fond, c'était dans le social qu'elles pouvaient s'épanouir et faire quelque chose. Et vraiment, Anémone Giscard d'Estaing, sa fondation pour lutter contre la violence faite aux enfants, elle s'en est occupée bien après. Je veux dire, c'est pas simplement le temps du septennat, c'était quelque chose, un véritable engagement.
Ouais. Alors, Bernadette Chirac, la dernière reine de France, disait Jean Guiton. Est-ce qu'on peut dire que ça a été la première dame la plus populaire ?
Oui, peut-être populaire parce qu'il y a cette histoire d'opération pièce jaune qui a été très importante. Elle est devenue populaire, c'est-à-dire que c'était pas acquis. Je crois que petit à petit, elle a fait sa place. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Et elle est devenue même un atout pour Jacques Chirac.
Elle est devenue un atout et c'est ça ce que je raconte dans le film parce que à un moment donné, il a bien fallu qu'il prenne en compte l'influence de sa femme, même si pendant des années et la mettait dans l'ombre, quoi, véritablement.
Alors, on a eu Cécilia Sarkozy, la première à divorcer pendant le mandat de son mari, puis Carla Sarkozy, elle, première à se marier à l'Élysée.
J'ai vraiment tout fait pour me fondre dans le décor, pour apporter le plus de classicisme possible. Donc, effectivement, mon modèle, c'était Bernadette Chirac, Madame Pompidou, Madame Giscard d'Estaing. Je voulais pas du tout faire mon original, parce que j'étais déjà tellement originale et la situation était tellement différente. Alors, j'ai fait profil bas.
Profil bas, on en parlait tout à l'heure, ça veut dire potiche, c'est « Sois belle et tais-toi », c'est ça qu'elle a fait, Carla Sarkozy ?
On peut pas dire juste sois belle et tais-toi, mais oui, quand même, elle a décidé de, elle était tellement originale, comme elle le dit elle-même, qu'au fond, il fallait, c'était un rôle qu'elle a endossé le rôle de la première dame en restant effectivement un peu derrière son mari, et en même temps, c'est une femme qui parlait quand même dans les médias. Moi, je me souviens de l'avoir vue, elle était invitée, elle se taisait pas forcément. Simplement, elle disait exactement ce qu'il fallait dire et pas au-delà.
Atypique aussi, Valérie Trier-Weller qui lui a succédé. Elle n'était pas mariée, elle, avec François Hollande.
Dès le soir de l'élection, je comprends que la vie privée n'existe plus. Qu'on devient privé de vie. Tout vous échappe, lui vous échappe. Et à un moment, quand moi j'ai besoin d'être sécurisée et que j'essaie de lui dire quelque chose qui n'est destiné qu'à lui, et que cette phrase, le fameux « embrasse-moi » est lue sur mes lèvres, j'ai trouvé ça terrible parce que c'était à la seconde même la preuve qu'aucune intimité ne serait plus possible.
Finalement, Elisabeth Capnist, c'est Valérie Trier-Weller qui a le moins bien vécu son passage à l'Élysée de toutes les premières dames, vous pensez ?
Moi, je crois que oui, c'est celle parce que d'abord, elle a été si impopulaire dès le départ. Elle était l'illégitime, celle qui avait pris la place de Ségolène Royal. Elle n'était pas mariée. Et dès le départ, dès son entrée à l'Élysée, elle reçoit des lettres d'insultes. Donc, et puis après, il y a son histoire avec François Hollande. Donc, c'est une femme humiliée, blessée, qui quitte le palais. Franchement, oui, je pense que c'est elle parce qu'elle n'a pas été soutenue. Elle n'a jamais été soutenue.
Par François Hollande. Alors aujourd'hui, c'est Brigitte Macron qui est à l'Élysée. Sa parole est très rare. Est-ce que la première dame du 21e siècle est condamnée finalement à rester muette avec la violence des réseaux sociaux ?
Je pense qu'on va vers ça, oui. C'est-à-dire, ou en tout cas, d'une parole très, très succincte, maîtrisée. Voilà, oui, il vaut mieux se taire.
Elisabeth Capnist, merci. Votre documentaire « Neuf femmes aux marches du palais » sera donc à voir sur France 5 dimanche soir à 22h35.